L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 287e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre, prise d'antenne légèrement tardive et nous excusons auprès de notre public. Nous logeons nos studios à côté d'un grand stade et il se peut qu'il y ait des embarras de circulation, comme disent nos amis belges. Mais voilà. 2 minutes de retard, mais l'émission a lieu comme d'habitude. Et je propose que nous commencions par l'opération de l'April. On va parler de Windows et donc l'April, donc l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, donc la principale association d'utilisateurs de logiciels libres, d'entreprises utilisatrices de logiciels libres, de collectivités publiques utilisatrices de logiciels libres, qui donc, à l'occasion donc, de la fin du support de Windows, par Microsoft, enfin de Windows 10. Alors, ça fait beaucoup les grands titres, même des journaux grand public. Hein. On en avait même parlé un petit peu avant, puisque, en gros, Windows 11 nécessite donc un matériel beaucoup plus récent, et donc nécessite, pour avoir un PC sécurisé sous Windows. Alors, on peut se moquer, mais c'est moins antinomique qu'il fut à une époque. Donc la réponse de Microsoft, c'est si votre PC sous Windows 10 ne supporte pas l'émigration au Windows 11, puisqu'il n'est pas assez puissant, c'est peut-être l'occasion de changer de PC. Ce qui fait un magnifique gâchis. Alors, je ne connais pas trop les politiques de greenwashing de Microsoft. En tout cas, là, ça y prend un coup.
Oui, sachant que les choix qui ont conduit à changer les prérequis matériels pour Windows 11 sont politique plus que technique, parce que Microsoft avait annoncé initialement que Windows 10 c'était la dernière version de Windows, que désormais Windows serait mise à jour au fur et à mesure, et dans ce qui est demandé pour Windows 11 par rapport à Windows 10, ça a plus l'air d'être, comment dire, un prétexte qu'un vrai besoin technique. On n'est pas sur un changement majeur, on est sur vraiment, oui, on demande ça parce que. Donc forcément ça accentue ce côté e-waste, comme on dit en anglais.
Donc, Microsoft a donc été pris dans la polémique et ils ont fait machine arrière, en tout cas pour l'Europe. Alors, un sursis de 1 an. Alors, au début, c'était des conditions assez contraignantes pour pouvoir accéder à ce support étendu, on va dire. Alors là, je ne sais pas si du support étendu entreprise est prévu. Je sais que ça l'était pour Windows 7 et que...
Il y en a pour certaines entreprises qui font... En fait, là, on est à la fin du support gratuit de Windows 10. C'est pour ça qu'il y a eu des demandes pour avoir accès, pour les particuliers, au support gratuitement encore un certain temps.
Microsoft voulait faire payer $30 aux particuliers pour pouvoir accéder à ce délai supplémentaire d'un an. Et finalement, ils ont reculé. Voir que c'est quand même fait débat au-delà même du cercle des utilisateurs habituels, enfin des médias technologiques, quoi. Donc, parce que là, ça, on touchait directement au porte-monnaie des gens. On leur disait, les machines, on a parlé déjà d'ailleurs une émission précédente, on les change beaucoup moins qu'avant.
Oui, alors, tu as été très partial envers Microsoft pour le coup.
Je suis désolé, Pierre, pourtant ce n'est pas le genre de la maison.
Tout à fait, mais en fait, et c'est justement pour ça que la règle n'est pas la même en Europe que dans le reste du monde. Microsoft a proposé gratuitement 1 an de mise à jour de Windows en échange soit d'un paiement effectivement de $30.
Oui, alors soit 1000 points Home Reward ou alors utiliser une petite sauvegarde en ligne.
Voilà, mais ça, par contre, c'est ça qui pose problème. Ces outils-là, en fait, il y avait donc moyen d'avoir accès gratuitement.
Avoir 1000 points reward, il faut lui acheter des choses. Quand
oui,
même.
Mais non, par contre, le truc de backup en ligne, ça, c'était gratuit.
Ouais, il faut donner ses données à Microsoft.
Voilà, mais c'était gratuit.
C'est gratuit pécuniairement.
Tout à fait.
Parlant. Et c'est...
Donc, vis-à-vis de la loi européenne et du DMA, le Digital Market Act, Microsoft n'a pas le droit de faire le cadeau des 1 an de mise à jour de Windows contre ben, rien du tout, puisque dans ce cas, ça veut dire que ben, le produit n'a pas de valeur. Donc dans ce cas, vous devez l'offrir à tout le monde, point. Et donc c'est ça qui fait qu'en Europe, ben, les mises à jour de Windows 10 vont être étendues pendant 1 an, donc sur l'ensemble de l'Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein, en disant que ben, ils n'ont pas le choix. Le prérequis qui était d'avoir un compte OneDrive était illégal, donc ils sont obligés de faire ben, l'offre gratuite sans le prérequis.
Donc l'April, pour aider donc les particuliers ou les petites entreprises ou les personnes qui veulent migrer leur ordinateur sous Linux, puisque voilà, c'est quand même l'opportunité eh ben, de faire découvrir le livre, hein, le livre. Bon, le livre si vous voulez, mais après les manuels papier d'informatique, ça se raréfie quand même. Donc voilà, mais c'était quand même vu comme une opportunité hein, depuis les quelques mois qu'on en parle. Et là, donc du coup, l'April lance l'opération Adieu Windows, bonjour le libre. Donc va proposer des événements en se basant évidemment sur les groupes d'utilisateurs de logiciels libres. Typiquement, une des actions qui est la journée nationale de la réparation qui aura lieu du 16 au 19 octobre. Donc c'est bientôt. Sinon, les événements sont répertoriés, devraient l'être sur adieuwindows.april.org. Mais chers amis de... Ah, j'avais un code 500 il y a encore 10 secondes. Donc le site est fonctionnel. Je ne sais pas, c'est le karma peut-être. Ou sinon, agendadulibre.org, hein, donc site dont qu'on utilise pour annoncer les prochains événements autour du libre dans la région. Donc n'hésitez pas, c'est classé par région, donc vous pouvez savoir ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, à voir ce sur quoi ça va aboutir. Sachant que j'étais quand même surpris du chiffre, Pierre, à propos du logiciel libre, mais mine de rien, où est le chiffre ? Je ne trouve plus. 2,2 millions d'utilisateurs de Linux sur PC en France. Sur PC, donc, ça exclut a priori l'utilisation serveur.
Et ça exclut serveur et smartphone.
Oui, Android, voilà, parce que bon, avec Android...
les statistiques ne sont pas du tout les mêmes.
Ce ne seraient pas les mêmes. Donc, c'est plutôt réjouissant. Alors, en termes de part de marché, ça fait 1-4%. 4% à domicile, 2% scolaire.
Professionnel et scolaire,
donc avec un niveau global de 3%. Mine de rien, 3% sur un système voilà, qui n'est proposé de base par quasiment aucun fabricant. Et encore, quand c'est proposé, il faut quand même demander des options particulières. C'est pas proposé dans les grandes surfaces informatiques. C'est, enfin, grandes surfaces Wi-Fi, multimédia, ou alors par la grande distribution. Donc c'est quand même 2 millions d'utilisateurs, c'est pas rien.
Tout à fait. Et sachant que voilà, là c'est une étude qui est complète, c'est la première, je crois que j'ai pas souvenir d'avoir vu une étude aussi complète depuis je pense pas avoir déjà vu une étude aussi bonne en fait. Alors après donc il parle de libre et il s'intéresse spécifiquement à Linux, Il y a un vrai problème, effectivement, comme tu le disais, de savoir comment faire pour viser le public non technophile. Parce qu'effectivement, ce pourcentage-là, quand on regarde, ben, ça correspond peu, finalement aux gens qui sont déjà enclins à connaître le libre.
Ou qui ont dans leur connaissance
quelqu'un qui leur a fait l'installation pour eux.
C'est pareil, nous, c'est vrai qu'il y a bon, avec Linux, voilà, avec Xelix, avec tout... les associations qui existent autour de la promotion du logiciel libre au niveau... local, il y a des actions qui sont menées, mais pour connaître les actions, faut déjà se poser la question. Alors même si ça passait alors, pour Linux par des interventions à la maison régionale vraiment et des solidarités, ce qui permettait aussi de voir un autre public. On a eu aussi du public associatif, hein, d'autres assos, des événements de café citoyen. Et de nous, en tant qu'association Linux, on dit beaucoup ça, justement, à aller sur des lieux qui ne sont pas que des lieux technophiles, mais aller rencontrer le public. Et le village libre de la braderie avec les gens qui passent. Bon, voilà. Pour s'arrêter un instant, vous savez que la braderie, c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres de stands. Donc, forcément, celui qui s'arrêtait ou celle qui s'arrêtait, il fallait qu'elle ait un certain intérêt. Mais voilà. Y a ça. Mais voilà. Je pense que c'est pas suffisant. L'utilisation, la promotion de l'utilisation de Linux et des logiciels libres à l'école peut-être un moyen. Alors, si vous me dites que c'est du lobbyisme, c'est-à-dire que Microsoft
en fait aussi énormément.
Hein, mais ne s'en prive pas. Donc, bon, c'est l'April,
soit ils arrêtent, soit ils sont dans le droit.
L'April le fait, hein, du lobbyisme, de l'advocatif. On n'est pas en train de placer des produits, mais de faire avancer en tout cas quelque chose, une cause qui nous semble importante. Je propose que l'on passe sur Internet et vie privée. On reviendra au logiciel, en remplissant le logiciel, un petit peu plus tard. La Californie, qui est en passe d'encadrer la sécurité des intelligences artificielles légalement. Alors, il y avait une loi qui était beaucoup plus ambitieuse, qui avait été proposée par un sénateur ou un représentant de l'État, je ne sais plus, mais qui a même été, fait l'objet d'un veto par le gouverneur de l'État de Californie, puisqu'il a trouvé que ça allait trop loin. Alors, pas non plus mécontenter Meta, Alphabet et toute la compagnie, donc Gavin Newsom. Donc, par contre, il a promulgué donc une législation sur l'usage de l'IA, donc sur la sécurité de l'IA. Alors, ça s'applique aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions de dollars. Bon, voilà, sachant les entreprises qui se trouvent dans la Silicon Valley en particulier, le cap est largement franchi. Ou alors, et également, alors, le texte s'applique à tout modèle dont l'entraînement a nécessité une puissance de calcul de 10 puissance 26 flop. Alors, 10 puissance 26, je ne sais pas, j'aurais pu regarder, mais de tête, quelle est l'unité? Je ne sais pas. 26, on est quand même... on est au-delà du péta.
Par contre, ce que tu n'as pas précisé depuis tout à l'heure, tu parles de la sécurité des intelligences artificielles. Qu'est-ce que ça couvre, justement?
Et tu vas nous le dire, Pierre.
Oui, parce que c'est un peu vaste de dire juste sécurité des intelligences artificielles. Les entreprises qui entraînent ces intelligences artificielles et qui les mettent en vente... il n'y a pas d'autre mot, vont avoir en fait des obligations. Ils vont être obligés de déclarer les incidents de sécurité, effectivement. Les cas où de risque de mort imminente, enfin de risque imminent de mort ou de blessure grave devront être déclarés sous les 24 heures. Et faut pas croire en fait tout ça, c'est parce que c'est des IA dites génératives. Donc on peut leur faire créer du contenu et elles peuvent créer du contenu, avec des appels à la haine, des appels au suicide, des appels à l'automutilation. C'est selon les personnes qui leur parlent et ce qui est demandé, ça peut produire ce type de contenu. Faut vraiment, c'est l'IA est un outil, mais donc son défaut, c'est que c'est un outil qui permet énormément de choses et qui échappe à tout contrôle. Les entreprises vont aussi avoir besoin de montrer comment elles intègrent tout un ensemble de normes de sécurité, donc et de normes de qualité, être transparentes sur en partie sur comment ça a été entraîné, expliquer d'où vient le fonctionnement, laisser les lanceurs de l'alerte travailler, etc. C'est pas rien. Maintenant, le gros bémol, sauf si Alexandre, tu t'apprêtais à en parler, c'est que c'est une loi qui est passée en Californie. Le gouvernement fédéral pas le même.
Là, c'est drôle. Moi, j'ai encore plus. Alors, effectivement, Trump est contre toute forme de régulation. Bon, ça, on le sait. Non, mais il y a un truc, et surtout, d'autant plus que les grandes entreprises de la tech lui ont fait allégeance, se sont couchées devant lui. C'est la remarque, moi, de Ted Cruz, donc sénateur républicain américain, donc plutôt de l'aile droite.
Ouais.
Bon, enfin, un républicain, donc qui s'inquiète que chaque pays, donc chaque État des États-Unis, ait sa propre législation. Et donc, il préfère avoir une législation relativement faible au niveau fédéral qu'avoir que chaque État ait chacun sa législation. De la part d'un républicain qui est très attaché, le Parti républicain très attaché au respect des droits des États, c'est quand même assez cocasse. Donc, qui se plaignent qu'il n'y ait pas de réglementation nationale, notamment, c'est ça, ils se basent là-dessus pour, maintenir la peine de mort ou des législations très permissives au niveau de la vente libre des armes.
Tout à fait.
La circulation des armes.
Voilà,
c'est tout ça qui était assez drôle. À Ted Cruz qui a quand même défendu l'humoriste qui a failli se faire virer par Trump en disant effectivement, on est pour la liberté d'expression, ça s'applique aussi à nos opposants. Bon, pour le coup, il était là, légèrement cohérent. Alors, Ted Cruz reste quand même, en tout cas pour les standards européens, un ultra-conservateur. Il ne faut pas non plus commencer à lui.
Il ne
reste pas déduire. Des louanges. Je propose que nous fassions une petite pause musicale et que nous écoutions The Celestial Parlor Orchestra, Crystal Cavern. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus 106,6. C'était The Celestial Parlor Orchestra, Crystal Cavern. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com partout dans le monde. C'est la deuxième partie des actualités et on va parler Internet et vie privée. Alors, on parle beaucoup de liberté numérique, c'est comme le sujet de l'émission, voilà, de nos bisbilles, nos attentes vis-à-vis de la législation européenne. D'ailleurs, à propos de ce dont on va parler tout à l'heure, à propos de la régulation en Californie, c'est quand même drôle parce que je pense toujours à cet adage américain de je ne sais plus qui, je peux citer Reagan ou un de ses admirateurs, c'est que quand les Américains créent quelque chose, les Chinois les copient et les Européens
l'interdisent.
Non, pas l'interdisent, le régulent. le réglemente. Bon, alors que même la Californie, c'est quand même un peu particulier par rapport aux États-Unis. Même aux États-Unis, ils se rendent compte qu'il y a quand même un besoin de régulation. Donc là, on va parler d'un pays très peu respectueux des droits de l'homme, encore moins respectueux des droits de la femme, enfin qui dénie d'ailleurs, le régime actuel dénie tout droit à la femme. Alors, je dis pas que avant c'était beaucoup mieux, mais bon. On va parler de l'Afghanistan, où les talibans ont tenté une expérience au XXIe siècle, en 2025, et si on coupait Internet. Internet et la téléphonie mobile, donc couper tout moyen de communication, prétexte pour de prévenir le vice. Donc, voilà. Notez quand même que les talibans, derrière leur volonté de paraître plus respectable, en tout cas, passent à coquiner avec des gens qui peuvent, en tout cas, qui ouvertement soutiennent le terrorisme, se font accepter, mais au final, pour ce qui est des droits humains, et en particulier les droits des femmes, c'est encore pire qu'avant. Les femmes sont exclues du public, bon, ça je vous apprends rien. Et donc, a priori, une des explications à cette coupure, c'est que Internet offrait quand même une fenêtre vers l'extérieur, un moyen de communication aux femmes, et c'était trop pour le pouvoir afghan, dans une société qui est quand même beaucoup plus rurale que les sociétés occidentales. Mais néanmoins, ils se sont rendus compte que, au bout de 3 jours, il était temps de reconnecter tout ça, parce que même les ministères talibans se rendaient compte que c'était quand même compliqué, et même s'ils ont une vie relativement peu connectée, ça empêche.
Ça complique beaucoup de choses.
Ça complique le système bancaire. Il y a un moment, l'argent restant le nerf de la guerre et du reste. D'ailleurs, ça s'est aussi accompagné d'une interdiction de tout vol international, toujours les vols internationaux à destination et en provenance de l'Afghanistan. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de vols commerciaux en ce moment, mais voilà. C'est vrai que quand on parle de liberté fondamentale, on se bat beaucoup, nous, et ça n'excuse en rien les atteintes qui peuvent être portées en Europe, mais bon, ça rappelle que ça peut encore être pire.
Et oui, et à propos de pire, finalement, les talibans n'ont pas été très malins. Dans leur démarche, il y a une démarche qui marche beaucoup mieux et qui est exportée à travers le monde, puisque désormais leur logiciel est mis en vente pour tout État qui souhaite brider les connexions Internet de ses citoyens. C'est le fameux, entre guillemets, grand pare-feu chinois. Eux, ils ont l'expérience pour construire un sous-Internet. Alors, il y a aussi le fonctionnement russe. Voilà, le fonctionnement russe est aussi assez intéressant, puisque en Russie, il y a de plus en plus un schisme avec un Internet qui n'est plus le même que celui dans le reste du monde. La Chine est quand même le pays expert là-dessus, et on n'en a pas parlé dans cette émission, mais c'est une actualité qui est passée cet été. Ils ont commencé à exporter leurs logiciels. Donc, si les talibans avaient été... Alors, je pense pas que c'est une question d'intelligence, je pense que c'est plus une question de moyens. S'ils avaient eu les moyens de s'offrir le logiciel chinois, je pense qu'ils l'auraient tout simplement déployé chez eux, et ils auraient tranquillou censuré toute la population et contrôlé l'accès à Internet. Mais ça m'étonnerait que ce logiciel soit mis à disposition gratuitement de tout le monde. Donc forcément, ils ont fait avec leurs moyens, qui étaient clairement visibles. Alors que là, une petite censure discrète, et c'est la même chose qui pourrait être mise dans n'importe quel pays, même démocratique, où on bride de plus en plus les sites en utilisant divers prétextes, c'est possible. Et on a les moyens techniques.
Macron a expérimenté en Nouvelle-Calédonie. On est bien, ça sert à ça, les colonies, ça sert à expérimenter les techniques de répression. C'était donc la fermeture de TikTok, l'interdiction de TikTok pendant les émeutes, parce que TikTok était accusé de jeter l'huile sur le feu. Hein, donc c'est pas l'exploitation économique qui est depuis des dizaines d'années qui en... Non, bien sûr, c'est TikTok. Alors, les gens, c'était des commentaires de gens qui se gossaient. Oui, mais alors, on interdit TikTok, voyons. Comme si TikTok était un moyen de lutter pour la liberté d'expression. TikTok, il y a quand même beaucoup de bêtises, on n'est pas forcément fan, mais le principe de couper un moyen de communication, c'est une technique de dictature et pas d'un État démocratique. On revient dans les États démocratiques et l'Union européenne, qui reste quand même parmi les États les plus démocratiques du monde, malgré tous leurs défauts. Et vous le savez, depuis, je ne saurais même plus dire quand, je sais pas, Pierre, tu viens depuis quand on a nos fameuses bannières sur les cookies,
nous demandait 2009, je crois.
2009. Donc après, avant même la naissance de cette émission.
Il y a eu le début des la loi qui impose des bannières, je crois que c'est 2009, et la mise en application où les gens se sont rendus compte que c'était nécessaire, ça a été surtout à partir du RGPD, donc vers 2016.
Donc, alors, petit rappel, il n'est pas obligatoire, même si vous avez des cookies, si un site internet dépose des cookies sur votre navigateur, il n'est pas obligatoire d'avoir cette bannière si les cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement du site. C'est des cookies, par exemple, quand vous vous connectez sur un site, pour savoir que vous êtes toujours connecté à ce site, il y a un cookie déposé. Et donc, tous les cookies, en fait, qui ne sont pas attentatoires à la vie privée, ne font pas l'objet, en fait, d'une autorisation.
Tout à fait.
Il faut être clair là-dessus. On peut déposer des cookies respectueux de la vie privée si et ne pas utiliser cette bannière. Bon, on s'est quand même, l'utilisateur s'est quand même rendu compte que ces bannières, c'est quand même.
C'est vraiment pénible.
Surtout qu'on les refuse. En fait, je pense que les gens qui les acceptent n'ont pas trop de problèmes, parce qu'au final, ils ne vous reposent pas la question. Mais quand vous refusez, ils vont reposer la question à chaque fois.
Hein. Alors, pas forcément à chaque fois, mais ils reposent la question.
Régulièrement, quand même. Voir des sites auxquels je suis abonné, auxquels je paye. Site d'information. Là, pour le coup, je l'ai quand même mauvaise. Bon, alors des fois, j'accepte les cookies, c'est vrai. Bon, mais j'ouvre le site en navigation privée. Voilà, c'est une des techniques si vous voulez pas être embêté. Parce qu'après, si vous refusez, vous dites oui, alors non, monsieur, faut payer. Ou alors non, vous êtes sûr parce que on a besoin de ces cookies et des revenus publicitaires pour vivre. Ce qui est aussi un débat qui se défend. Voilà. Le débat est pas complètement absurde. On a déjà parlé dans cette émission du modèle économique pour faire vivre les sites internet. Ce sera l'objet.
On pourrait en reparler prochainement.
Donc, sous le poids de certains lobbies de l'Union européenne, donc réfléchis donc dans le paquet, la loi omnibus. Alors, c'est pas un paquet, c'est une loi omnibus. Je connaissais les paquets, comme le paquet télécom. Donc, sur le numérique, la loi omnibus sur le numérique. Donc, les différents acteurs doivent donner leur avis d'ici le 14 octobre. Donc, c'est la semaine prochaine, la semaine suivante.
C'est la semaine prochaine. C'est dans 10 jours. Suivante, ouais.
Les acteurs de la publicité en ligne disent ouais, c'est bon, tout ce qui est statistique, on peut, voilà, ça c'est considéré comme un usage légitime. On peut tout simplement les autoriser par défaut. Alors, il y a une autre option qui a été proposée, et moi je l'aime bien, je pense que tu vas l'aimer aussi, Pierre, c'est qu'on utilise les réglages du navigateur.
Tout à fait.
Serait peut-être un petit peu trop simple. Je ne suis pas sûr qu'ils joueraient le jeu. Voire pire, ils pourraient dire oui, on joue le jeu, mais en fait, non. Parce qu'on a déjà aussi cette discussion lors d'une émission précédente. Et en fait, on n'est pas sûr que quand vous dites non, ils ne déposent pas quand même des cookies.
Tout à fait. Le navigateur resterait le meilleur moyen. Si c'est intégré au navigateur, le navigateur pourrait aussi s'assurer que la règle soit respectée. Parce que le navigateur pourrait juste interdire tout cookie de tiers sur un site. Ça, c'est dans les possibilités techniques. Après, c'est relativement contraire aux normes en place aujourd'hui, mais pourquoi pas. Maintenant, ces sujets-là sont quand même assez compliqués parce que, il y a la question du financement des sites internet. Et je rappelle une contrainte réglementaire en Europe, il est interdit légalement de dire « vous devez accepter les cookies, sinon il faut payer ». Alors je sais qu'il y a plein de sites qui font ça, mais c'est pas parce qu'ils le font.
Pardon ?
Dont des sites français. Dont des sites français, tout à fait. Et c'est interdit de faire ça. Maintenant, c'est difficile d'aller porter plainte contre chaque site.
Il y a une vraie question. Il y a les associations, il y a la Quadrature du Net, et il y a d'autres associations de protection de la vie privée, des libertés numériques.
Tout à fait, mais ça reste la question fondamentale et le financement des sites web. Et ça, cette question n'est pas posée. Il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pas de débat pour savoir comment on pourrait financer. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir sur chaque abonnement Internet 1, 2, 5 euros pris par mois qui correspondrait au financement des sites avec un système de financement
Alors, je pense que les débats sur la clé de répartition risquent d'être assez...
Tout à fait, ça serait compliqué, mais fait partie des questions.
C'est partie des questions, on se l'est déjà posé.
Mais aujourd'hui, mieux vaut ne pas poser de questions.
Ouais. Il y a 20 ans, c'était le principe de la licence globale. On n'a pas eu la licence globale, du coup, les ayants droit s'étaient insurgés contre ça. Non, c'est inacceptable que contre quelques euros par mois, on puisse y avoir accès à tout le catalogue. Et depuis, se sont généralisées les plateformes de streaming en ligne, ou pour quelques euros par mois.
Mais ça part dans du privé, donc donc c'est mieux.
Dans le privé. Donc là, vous payez plus cher ce que vous devez payer un prestataire. Et au final, je ne suis pas sûr que la part qui revienne réellement aux ayants droit soit plus importante que s'il y avait une licence globale directe.
Elle est plus faible parce que dans les contrats, ils excluent dans certains cas les plateformes de streaming de la rémunération des artistes.
Voilà, voilà.
Voilà.
La justice néerlandaise estime qu'avec le DSA, Meta doit proposer des flux chronologiques et donner accès aux flux chronologiques et pas uniquement à ce qui sort de l'algorithme de Facebook, Pierre.
Tout à fait. Et en deuxième point, ils demandent à Meta d'arrêter de supprimer les réglages des utilisateurs. Petite blague, du coup. Donc, effectivement, les comportements de Meta sur le respect de la vie privée et sur le respect de ce que demande l'utilisateur sont pas très bons. En l'occurrence, donc oui, il s'agit dans Facebook. Alors, je ne sais plus si c'est Facebook ou Instagram ou un autre composant encore de la galaxie de Meta, mais donc il a été constaté que effectivement Facebook a. Ben, je crois que c'est donc bien sur Facebook spécifiquement, ils ont tendance à supprimer dans certains cas des paramètres, genre ben, quand l'utilisateur demande une timeline qui soit pas basée sur les profils mais sur l'ordre chronologique, c'est ben, lorsqu'on se reconnecte à Facebook, ça repart sur le mode basé sur le profil. C'est pas conservé.
Je suis surpris. Je suis choqué et déçu. Voilà. Et je demande la démission.
Et maintenant, quelle est la différence entre les flux chronologiques et les flux basés sur le profil ? Ben, en fait, les flux chronologiques, ça permet d'avoir juste ce à quoi on s'est abonné et de voir les publications qui arrivent comme ça.
Moi, je connaissais alors le principe sur les sites type Twitter anciennement, enfin X anciennement Twitter, Blue Sky, ce genre de choses. Mais pas que.
Ah, il y a les mêmes choses sur les plateformes à la Facebook et en fait le scroll infini, ça se base aussi sur le fait de faire de se baser sur le profil et de proposer du contenu magiquement par le biais d'un algorithme. Et en fait, le cœur du débat là-dedans, c'est aussi est-ce que mettre en avant du contenu par un algorithme, c'est être non plus une plateforme neutre, mais être un producteur de contenu, mais être impliqué dans le contenu et donc avoir aussi de fortes obligations sur ça. Donc là, l'avis de la justice est assez tranché là-dessus. Et donc Meta disposerait, non, a priori, de 2 semaines pour mettre en place un choix soit chronologique, soit basé sur le profil, que ce soit sur Facebook, Instagram ou les différentes applications du groupe Meta.
Le feuilleton qui va nous occuper, je pense, encore de longs mois, le procès antitrust de Google.
Le deuxième.
Oui, parce que l'actuel, on va dire.
Oui, le nouveau, parce qu'on ne parle pas de celui d'il y a 3 mois. Celui d'il y a 3 mois, il est terminé. Donc Google a été reconnu coupable d'abus de position dominante sur le marché de la recherche en ligne. Là, on est sur autre chose. On est sur de l'abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Ce n'est pas le même.
Ça pique encore plus, parce que là, c'est vraiment le business model de Google.
Ben voilà, la recherche en ligne, c'est ce qui les a lancés. La publicité en ligne, c'est ce qui les fait vivre. Voilà. On n'est pas sur la même chose. Donc, c'est un dossier qui a commencé en 2023. Et ça prend du temps de monter ce genre de dossier. Et donc, là, en gros, ils considèrent que tout le fonctionnement de Google qui vise à racheter des concurrents pour les englober et prendre le plus de parts de marché possible, donc c'est comme ça que Google a racheté des double clics et autres, c'est l'intégration au milieu de leurs produits, donc le fait que Google affiche des publicités Google Ads au sein de Google Maps, au sein de Google Search, au sein de tous leurs outils, et ça fait une telle imbrication que ça ne laisse plus la place à personne d'autre. Et comme il n'y a quasiment plus que Google pour la publicité en ligne, on est sur une situation monopolistique. Il n'y a pas d'autre mot.
Et comme on vient d'en parler, hein, à part les abonnements, l'autre ressource principale des sites internet, c'est la publicité en ligne.
Voilà.
Donc ils sont en situation de monopole sur ce qui fait vivre les sites internet marchands.
Et donc il y a une vraie question, ça va être quelle va être la conclusion ? Est-ce qu'ils vont à nouveau juste donner une amende ou est-ce qu'ils vont aller plus loin et imposer la séparation d'activité de Google ? C'est ce que beaucoup de gens espèrent parce que justement le démantèlement ça semble des fois être la seule solution face à des géants qui abusent de position dominante.
Sauf que c'est arrivé une fois avec un procès retentissant, c'est AT&T.
Exactement.
Et c'est la seule fois où c'est arrivé. La dégeekalisation, c'est juste après un second morceau de musique. Nous allons écouter Daisy May, Ray Roses. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus. C'était Daisy Mail, Grey Roses. Vous écoutez les codes Ignout sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. 20 ans qu'AMD a fait plier Intel avec l'AMD 64. Mais qu'est-ce que ça a changé et pourquoi ça a tout changé?
Tout à fait. On va parler un petit peu de ce qui se passait. Donc ça fait 20 ans. Donc le changement, en fait.
C'est maintenant.
Le changement, là, pourquoi on en parle pas mal en ce moment dans les milieux techniques, c'est parce que ça fait à peu près 20 ans que sont sortis les premiers processeurs Intel qui implémentaient les instructions AMD 64. C'était la première fois dans l'histoire, finalement, que Intel a été contraint d'implémenter dans ses processeurs quelque chose qui n'avait pas été conçu par eux-mêmes.
Alors, AMD, à la base, est un cloneur.
Tout à fait.
Les processeurs Intel.
Et donc, Intel l'avait nommé le EM64T pour dire c'est pas le même, il y a des différences minimes, c'est genre la virgule elle est pas au même endroit dans le texte, on n'est pas loin de ça en termes de vraiment de
différence, oui.
Différence, c'est rien du tout, mais clairement Intel a été obligé de copier ce qu'avait fait AMD. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé et en quoi c'est important ? Donc effectivement, rappelons juste l'origine d'AMD, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué dans une émission précédente. AMD
avait s'était lancé sur le marché du processeur pour PC parce que il y avait une demande initiale, c'était il ne fallait pas qu'il y ait un seul fabricant de processeurs, il fallait des clones. Il fallait des cloneurs, c'est hyper courant dans le monde de l'électronique. Et les fabricants d'ordinateurs voulaient la même chose au niveau des puces, donc il fallait autre chose qu'Intel. Donc Intel a vendu des licences à AMD, et AMD a fait des clones, qui même certains clones s'étaient révélés meilleurs que les processeurs d'Intel à l'époque. Voilà, si on parle de bisbille des années 80 à début des années 90. Années 90, Intel en a marre et décide de se lancer sur un grand projet Litanium pour écraser finalement tous les concurrents, avoir un processeur sans licence vendue à d'autres, donc ils sont les seuls à pouvoir le faire, donc plus de pognon. Un processeur qui vise le marché des professionnels, et les professionnels, on savait que le milieu des ordinateurs en 32 bits était touché à sa fin, même les consoles de jeux commençaient à passer aux 64 bits, on se souvient de la Nintendo 64, de la Jaguar, et des PlayStation 3, je crois que c'est la 3. Alors, qui
je crois que la Jaguar, c'est une blague, en fait. C'est
oui,
deux processeurs.
Oui. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, pourquoi le 64 bits posait problème, enfin le 32 bits posait problème, on en parle un peu après. Bref, Intel s'était lancé dans son grand projet d'Itanium qui a fait le flop. Intel est connu pour ses flops. L'Itanium est l'un de leurs meilleurs, mais c'est un flop qui a tout de même réussi sur d'autres aspects. Mais je crois que j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps.
Intel a ses flops. C'est pas honteux d'avoir un flop.
Intel est un serial flopper, tout de même. Ils sont très forts.
Grande entreprise industrielle qui dure depuis des décennies qui n'a pas de flop.
Oui, mais en fait, Intel, leur particularité, c'est qu'ils ont tenté plusieurs fois de tuer leur poule aux œufs d'or, le processeur x86, donc le processeur 32 bits classique.
Après, un fondeur de processeur, c'est quand même pas illogique qu'il fasse beaucoup de flops.
Oh, c'était facile, celle-là. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire, le passage aux 64 bits? Alors, en fait, pourquoi ça a été un grand succès? C'est parce que, justement, ils n'ont pas fait que passer à 64 bits, donc la différence 32 bits, 64 bits, c'est simple, c'est la taille des nombres, et ça permet d'accéder à plus de mémoire. Aussi simple que ça. Ça permet éventuellement de faire des calculs avec des nombres plus grands, mais même ça, on pouvait tricher autrement. Là où on ne pouvait pas tricher, c'était pour accéder à plus de mémoire. 32 bits, on est limité à 2 puissance 32, c'est-à-dire 4 gigaoctets de mémoire. Dans les années 90, début des années 2000, c'était énorme, on ne voyait pas le problème. Et même en 2010, on ne voyait pas encore nécessairement le problème pour toutes les machines. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, le premier smartphone va avoir 6 ou 8 gigaoctets de mémoire. Même un smartphone ne peut plus être en 32 bits. Mais finalement, c'est pas seulement ça. Donc c'est pour ça que la logique d'Intel à la base, c'est de dire ah ben, on va pousser le 64 bits que pour les professionnels. Les particuliers, quel particulier aurait besoin un jour de plus de 2 gigaoctets de mémoire vive?
Qui a besoin de plus de 128K de mémoire?
640K.
640, pardon. Merci Bill.
Mais donc, AMD, leur grand succès, ça a été de faire un processeur qui était à la fois compatible, mais intégralement compatible avec le 32 bits. C'est, on pouvait démarrer les logiciels qu'on voulait dessus sans problème, qui pouvait faire tourner un système d'exploitation en 64 bits, et sur ce système 64 bits, faire encore tourner des applications 32 bits. Et ça, ça a été la magie de cette plateforme. C'était l'une des premières fois, finalement, qu'on avait quelqu'un qui avait fait une évolution vers 64 bits en gardant toute la compatibilité avec des millions de logiciels qui étaient déjà présents. Et rien que ça, c'était déjà un bon pas en avant. Et le deuxième pas en avant, c'est qu'ils ont été malins. Ils n'ont pas fait juste un changement, ils vont dire « bon, bah, on a plus de mémoire, super ». Ce changement-là n'aurait rien apporté. Clairement,
à court terme, puisque
à court terme, voilà. Et le but pour AMD, c'était de dire « regardez, on est meilleur ».
2005-2010, c'était quoi?
2 gigas de mémoire, c'était déjà beaucoup.
Ouais, j'ai plus souvenir.
En 2006, j'ai passé un de mes PC de 512 à 1,5 giga et j'étais super content et je trouvais ça énorme. Donc voilà, c'était les ordres de grandeur de l'époque, on était en dessous de 2 gigaoctets de mémoire, donc effectivement, 4 gigaoctets de mémoire, on s'en fiche. Là où c'était beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils ont ajouté dans le langage du processeur des registres, comment appeler ça? C'est pas des bouts de mémoire, justement, c'est la possibilité pour le processeur de manipuler plus de nombres en même temps.
D'ailleurs, ils étaient même piégés par l'efficacité de leur processeur, parce qu'ils étaient obligés d'annoncer un chiffre. Parce que, bon, à l'époque, surtout à l'époque, maintenant, beaucoup moins, mais en gros, on considérait que le mégahertz, c'était 1 km/h. Donc, en gros, plus tu as 1 MHz, plus c'était rapide. Ils ont dû mettre, d'un point de vue marketing, un chiffre qui une espèce d'équivalent fréquence d'horloge d'un processeur Intel. On dire, s'il donnait la vraie fréquence, tout le monde dit, non, c'est moins puissant qu'un Intel.
On est parti sur ce genre de problème après, mais c'est là où AMD a réussi son coup, c'est qu'ils ont pris le système 32 bits qui marchait, mais ils ont bien pris en compte ses lacunes, ils ont comblé les lacunes tout en gardant un pied dans la compatibilité avec l'ancien système. Et c'est pour ça qu'ils ont fait plier Intel et qu'ils ont réussi finalement à remodeler le monde de l'informatique aujourd'hui. Il y a beaucoup dans les milieux techniques des fanboys, des gens qui sont fans d'Intel, d'AMD ou de telle ou telle marque. Ça se trouve partout.
Une communauté humaine assez fanboy. À chaque fois qu'il y a une marque, un produit, ce que vous voulez, il y a des fanboys.
Mais ce que beaucoup de gens oublient dans l'histoire, c'est que alors Intel a inventé et a eu un succès monstrueux, presque par accident, avec le processeur x86 32 bits à la base. Mais c'est Intel, c'est AMD qui l'a révolutionné derrière. Le succès de Microsoft, c'est un coup de chance aussi.
Ah ben le PC, de toute manière, est un malentendu. Hein. C'est un succès.
Exactement, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc voilà.
Merci Pierre, on retrouve les actualités après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter So Said Mende, Berlin Artist, The Guy. Vous écoutez les Codignous sur Radio Campus.
He's got the alphas worried, they don't know how to take him the way he stands. In the corner off to the side and doesn't speak unless he says something really important, really confounding, something the rest of us have been missing. They say he's upending the hierarchy, one awkward silence at a time, and he's doing it all with his mind. They say you don't wanna get on his bad side. He could do anything to anyone at any time. They say he has vast untapped stores of potential. He doesn't need to show off, you see he's pretending. He's just taking it easy. Some say he's nothing, some say he's more. They say he's what we're not ready for. Some say he's nothing, he says he's more. We're not ready for. They say he's a shapeshifter. He claims he's just like anyone else, with more integrity, more character. They say he sees things and knows what the rest of us are thinking, but he won't tell us, and he won't tell us why. They say he once stood in front of the mirror for 7 hours, then walked into the street and forgave someone for something they hadn't done yet. They say he broke a vending machine by whispering that no one ever loved it. They say he can smell shame like smoke on someone else's coat. They say he doesn't blink, just recalibrates, doesn't get mad, just redefines the space around you. They say he's what happens when quiet goes too long uninterrupted, and some say he was born in a cube and never left. Others say he's just a phase we're all going through. Some say he's nothing, some say he's more. They say he's what we're not ready for. Just didn't seem the type.
Yeah, I don't know if I believe them. Maybe he's just tired.
C'était So Said Mender, Berlin Taste the Kai. Vous écoutez les codes Ignous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. On va terminer avec les actualités logicielles. Libre, on aimerait qu'il le reste. C'est donc grosse restriction donc pour les développeurs Android et des derniers dépôts de logiciels libres pour Android et F-Droid pourraient fermer à cause de cela.
Tout à fait. Alors, F-Droid, c'est pas juste un dépôt de logiciels pour Android, c'est entre guillemets la plateforme pour diffuser sur Android des logiciels libres. Parce qu'il y a une règle fondamentale au sein du projet F-Droid, c'est qu'un développeur ne dépose pas une application sur F-Droid, il dépose le code source. Et c'est le projet F-Droid qui va compiler ce code source pour produire l'application qui, elle, sera installée. Du point de vue de la sécurité, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le projet F-Droid garantit que, oui, cette application vient bien du code source qui a été fourni par le développeur. Donc vous pouvez auditer l'application, vous pouvez être sûr de ce qu'il y a dedans. La contrepartie, c'est que si un jour F-Droid était attaqué et venait à être infecté par un virus, un ver ou autre, les applications produites pourraient l'être à leur tour. Ça serait dramatique, c'est pour ça que ça fait un point sur où la sécurité doit être critique. Le débat est ouvert par rapport à, mais chaque développeur doit être protégé dans l'autre cas. Donc F-Droid est un projet important puisque c'est la solution pour diffuser des logiciels libres sur Android. Le Play Store de Google ne met pas en avant les licences, ne permet pas de mettre en avant le côté libre d'un logiciel et tout ce qui va avec les libertés, on va dire, garanties à l'utilisateur. Mais il y a un changement que Google souhaite imposer et qui, lui, pourrait détruire F-Droid et énormément de choses autour. Il s'agit d'un nouveau processus, en fait, de nouveaux prérequis de certification auprès des développeurs Android. Donc leur objectif, c'est que un développeur qui publie une application, alors sur appareil équipé de Play Protect, je crois qu'on en a déjà parlé récemment, c'est une technologie qui est imposée de plus en plus au sein de certaines applications officielles sur Android pour garantir que oui, le système Android en question, il est garanti officiel, il est propre, tout ça. Mais donc, Google pourrait contraindre cette garantie à l'utilisation uniquement d'applications vérifiées par les développeurs. Et donc, les développeurs auront alors l'obligation de s'enregistrer auprès de Google avec nom, adresse, email, téléphone, et déclarer toutes les applications qu'ils souhaitent proposer. La difficulté majeure pour F-Droid, c'est que c'est contraire au fonctionnement d'F-Droid, puisque F-Droid diffuse les applications des développeurs. Donc, ça casse complètement une solution comme F-Droid. C'est un énorme problème donc pour F-Droid, mais c'est aussi un problème au niveau des développeurs. Alors, on n'en parle pas trop en France de ce problème-là, mais ça s'est produit à la fois sur le Play Store et sur l'App Store de Google. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ICE aux États-Unis.
Non, l'ICE, c'est un TGV allemand.
Tout à fait. Ça, parce que tu es européen. Mais l'ICE aux États-Unis, c'est la police de l'immigration. Et en ce moment, ils sont plutôt en mode berserk depuis l'élection de Donald Trump, ouais. V2.
Et non seulement ça, ils s'en prennent aux migrants des pays pauvres, mais même les ingénieurs des pays riches maintenant.
C'est ça,
ils subissent des rafles. Peut-être que ça finira par réveiller des gens.
Ouais, mais le terme rafle est pas loin de la vérité en fait. C'est ça qui est choquant. C'est leur fonctionnement, ils débarquent, ils prennent tout le monde et c'est fini. Ils sont même à utiliser des vols militaires derrière. On ne peut pas savoir ce que deviennent certaines personnes.
Il y a des migrants, effectivement, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
Voilà. Et donc, une solution qui a été développée pour lutter contre ça, c'est une application qui s'appelle IceBlock, qui était disponible sur iPhone et sur Android, et qui permettait de savoir s'il y avait la police en question qui avait été repérée pas loin. Google et Apple ont retiré l'application de leur store, et une des questions c'est, si les développeurs ont l'obligation de s'enregistrer, est-ce que
Google ne va pas du coup dévoiler au gouvernement le nom, adresse, numéro de téléphone de l'auteur de l'application. Et donc l'auteur serait alors poursuivi par la police également.
Un petit fumé des années 40 quand même.
C'est un mouvement qui est extrêmement inquiétant. Et aujourd'hui, en tout cas, Google n'a aucun intérêt, ne montre aucune envie à s'éloigner de ça. Alors les gens en appellent à l'Europe pour dire que ça va être contraire au DMA et au DSA. Malheureusement, c'est pas sûr. C'est globalement possible de rentrer dans le cadre réglementaire. Ça va être à creuser, ça va être des questions d'avocats. Mais ça c'est un gros sujet de fermeture de
vous en prie. Un point sur l'agenda. Donc, on va parler donc des ateliers, des événements associatifs où vous pouvez installer Linux pour remplacer votre Windows qui bientôt ne sera plus sécurisé, en tout cas sans échange pécuniaire avec Microsoft. Donc à Croix, donc sera ce mardi-ci, donc le 7 octobre de 19h à 20h, un atelier Tech local aux petites cantines 3 Place des Martyrs, donc Croix entre Lille et Roubaix. Tous les samedis matins, vous avez les ateliers Libre à vous, donc à Villeneuve-d'Ascq, à l'OMJC rue Yves de Cugis, donc organisé par CLX. À Lille, donc la fête de la réparation, il y aura des événements donc du vendredi 17 octobre à 18h au samedi 18 octobre à 17h30, donc sur deux jours, donc à Choubouillon, donc c'est l'ancienne friche Fifkai Babcock, pour ceux qui connaissent, donc c'est au métro Marbrerie, donc différents événements seront organisés, et donc la permanence de l'association Ch'tinux, comme tous les derniers mardis du mois, donc de 20h à 22h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts, où vous pourrez accompagner vos discussions de boissons bio et équitable. C'était donc le 287e numéro de l'Écho des Gnous. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Nous serons donc le dimanche 19 à 19h comme d'habitude pour le numéro 288. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento et il ne reste plus à Pierre et à moi que vous souhaiter une bonne fin de week-end. Au revoir à toutes et à tous.
Au revoir.
Le livre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'Écho des Gnous.